Bonjour et bon après-midi en ce samedi 6 octobre 2012. Bienvenue dans ce groupe de partage autour des enseignements non duels de l'unité, autour de tout ce qui dit d'une forme, d'une manière ou d'une autre, nous sommes un, à travers quelques ouvrages de spiritualité, de non-dualité, qui abondent en ce moment sur Terre. Voilà, je vais commencer par un son de cloche qui va nous inviter à juste manifester notre pleine présence maintenant. Merci. Bienvenue à tous les frères et sœurs qui nous suivent à distance à travers les enregistrements audio du site Être Plus, qui vous donne aussi un historique complet de toutes les réunions depuis le 1er mars 2010 et même avant la naissance de ce groupe ici à Romainville, ainsi que d'autres enregistrements de nature spirituelle ou non-duelle qui se sont passés ici. Voilà, donc nous allons partager autour de la non-dualité. Je vais donner quelques directions, je vais introduire l'après-midi, et puis ensuite nous nous sentirons libres de laisser venir à nous des situations qui méritent un éclairage, un partage, des situations de notre vie, qui peuvent apparemment sembler banales, mais qui peuvent se révéler porteuses de grands enseignements et de lumière. Voilà, et puis je vais dédier l'après-midi entière et ce groupe à l'esprit, la partie élevée de moi-même, de nous-mêmes, en tant que humanité, filialité, fils, afin que ce qui se passe n'implique pas que j'ai le désir de le contrôler, mais plutôt que je me laisse diriger. Et ces phrases qui apparaissent en page 30 d'Un cours au miracle disent simplement ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Ayant dit cela, je peux me détendre et puis d'ores et déjà considérer que cet après-midi, cette réunion, ce groupe sera parfait, quoi qu'il soit, parfaitement dirigé aussi. Alors, je vais donner quelques phrases qui vont peut-être nous permettre de partager dans quelques directions, qui sont des directions de spiritualité. La spiritualité, à l'inverse des religions établies, souvent dogmatiques, a un but universel. Elle n'a pas le but de diviser, mais plutôt de rassembler. Et lorsqu'on utilise le mot Dieu dans la spiritualité, cela n'invoque jamais un principe religieux, mais plutôt spirituel, de l'ordre de tout ce qui existe, comme un tout, indivisible. Quand nous disons « nous sommes un », c'est de cela dont nous parlons. On peut l'exprimer avec différents mots, bien que les mots soient toujours limités. nous pouvons dire, selon ce qui nous arrange et ce qui nous convient, l'univers, notre source, notre esprit supérieur, tout ce qui est, tout ce qui existe, la totalité de l'existence, et bien d'autres formes, bien d'autres mots, qui décrivent finalement l'état d'unité dans lequel nous sommes, sous des apparences séparées, qui sont, nous y reviendrons certainement, une illusion, une perception qui est vécue par nous, mais qui se révèle quand même être quelque chose d'illusoire. Voilà, donc je vais citer quelques phrases. Peut-être nous laisserons-nous inspirer pour développer le sens de ces phrases. Entre autres, pacifier notre vie avec le vrai pardon, tel que beaucoup d'ouvrages de non-dualité en parlent, comme un cours au miracle principalement, mais aussi l'évangile selon Jésus et la technique Ho'oponopono qui se base bien là-dessus, et bien d'autres. Comment pouvons-nous, dans notre vie, choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison? Comment distinguer deux niveaux de perception, réalité et illusion? Comment la vraie guérison vient de l'esprit, est de l'esprit? Quelle est la nature du voile de séparation que nous avons posé sur notre esprit pur? Quel est le sens du mot Dieu dans la non-dualité, si on en a déjà un petit peu parlé? Comment identifier l'ego comme la croyance d'être séparé? À quoi sert le scénario de notre vie humaine sur Terre, de la dualité? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Un mot qu'on entend souvent en ce moment, cette période. Comment pouvons-nous apprivoiser l'ego pour le remettre à notre service? Comment le monde subtil, l'esprit ou le Saint-Esprit est à nos côtés en permanence pour nous fournir de l'aide? Comment dans chaque situation il n'y a en définitive que l'amour qui s'exprime ou la peur qui s'exprime? Et comment choisir entre les deux? On peut revenir aussi sur l'origine et le sens d'un cours en miracle, ce gros pavé bleu de 1300 pages qui date de la fin des années 60. Comment mieux percevoir notre nature véritable? Comment voir le pouvoir, percevoir le pouvoir divin de nos intentions? Comment ce que je vois du monde reflète mes pensées, mes croyances? Et finalement, comment être dans le monde sans être du monde, comme disait Jésus il y a 2000 ans et quelques, et bien d'autres directions que chacun peut être libre d'amener, et en particulier des situations de la vie quotidienne. Il m'a fait une queue de poisson sur le périphérique. J'étais à la caisse et quelqu'un est passé devant moi. Voilà, toutes ces situations qui semblent être anodines peuvent être des véritables enseignements quand elles sont abordées avec l'esprit de la non-dualité, l'esprit d'un cours en miracle. Et puis, j'ai tiré la leçon numéro 283 dans le panier, et ce titre dit « ma véritable identité demeure en toi, avec un T majuscule. Voilà. Voilà le groupe qui s'agrandit. Alors Dieu étant la totalité de l'existence selon la non-dualité, il y a cette phrase qui résume ce concept, une phrase très courte qui dit simplement « Dieu est ». Elle ne dit pas « Dieu a été » ou « Dieu sera », mais « Dieu est ». Sans aucune notion de temps, dans l'éternel instant. Et comme Dieu est la totalité de l'existence, alors Dieu ne peut pas s'opposer à quelque chose, puisqu'il n'y a pas quelque chose à quoi s'opposer. Puisque tout est Dieu, Dieu est la totalité de tout ce qui existe, donc Dieu s'opposerait à lui-même, s'il devait s'opposer à quoi que ce soit, s'il s'opposait à moi, à vie, dans mes décisions, il s'opposerait aussi à lui, puisque je suis dans Dieu, une partie de Dieu, mais pourtant un avec Dieu. Pour l'ego, ça semble difficile à comprendre, de parler de choses qui sont perçues comme séparées et qui sont en réalité une seule existence, une seule chose, un seul être. Et donc si Dieu ne peut pas s'opposer à moi ni à quoi que ce soit, par conséquent Dieu accueille tout. Dieu est sans jugement sur quoi que ce soit. Dieu ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Voilà, nous pouvons nous détendre avec une soi-disant idée d'un Dieu qui nous surveillerait, serait agacé. Parce que nous faisons ou disons qu'il serait en colère, et qu'il serait à prendre une revanche. Dieu est tout, et l'amour est tout également, il n'y a que l'amour inconditionnel. Et Dieu est l'expression de cet amour qui est étendu en permanence pour faire de cet amour quelque chose de plus. Et en tant qu'extension de Dieu, il y a le Fils, ce que le cours homérique appelle le Fils, la filialité. Nous, en tant qu'extension de Dieu, issus de l'amour et représentant l'amour, la seule véritable création de Dieu. Et en tant que création de Dieu, en tant que Fils, nous avons l'héritage des caractéristiques divines. Nous ne sommes pas dans le temps, nous ne sommes pas dans l'espace. Nous sommes infinis, intemporels, nous sommes dans l'abondance absolue. Chaque pensée divine est suivie de création. Il y a une seule chose que nous ne pouvons pas faire, l'identique avec Dieu. C'est que nous ne pouvons pas défaire ce que Dieu a fait, nous ne pouvons pas nous décréer. En cela réside notre sécurité éternelle. Nous nous autodétruire par la pensée d'autodestruction. Et c'est ce qui distingue le Père du Fils. Le Père crée le Fils, mais le Fils ne crée pas le Père. Hein, c'est la seule distinction réelle des propriétés et caractéristiques divines qui nous distinguent de Dieu. Alors, la plupart des les humains pourront dire qu'ils ne ressentent pas qu'ils sont un ou qu'ils sont Dieu. Et en effet, c'est là qu'intervient le voile de séparation. En effet, nous avons voulu créer une expérience particulière, l'expérience de la dualité, qui suppose qu'il y a autre chose que l'amour. Bien sûr, qui suppose, ça veut dire qui se permet d'imaginer, parce qu'en réalité, il n'y a que l'amour. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'amour. Dieu est amour. Et donc, comme c'est impossible de créer le non-amour, de créer la haine ou de créer le jugement dans le monde de l'unité, nous l'avons imaginé, où nous sommes apparemment endormis un petit instant, tout ça c'est une façon imagée de le dire, et nous avons fractionné notre esprit en un esprit divisé qui croit que le non-amour peut exister et un esprit juste qui n'a pas quitté la réalité unique de Dieu. Cette division, bien sûr, est illusoire, puisque notre véritable esprit n'est pas divisé, mais comme nous pouvons imaginer des choses, alors nous avons imaginé cela. Nous avons imaginé nous éloigner de Dieu pour vivre une expérience dans laquelle Dieu ne serait pas perçu ou présent, ou perçu comme notre réalité ultime. C'est ça le voile de séparation. Si nous avions imaginé la dualité un seul instant sans en même temps la recouvrir l'unité d'un voile qui nous maintient dans l'oubli de notre nature, la dualité n'aurait pas pu être créée, être fabriquée dans notre esprit. Parce que c'est une telle distance de qui nous sommes que nous n'aurions pas accepté de jouer ce jeu. Voilà, or il s'avère que cette dualité a un sens d'enseignement pour nous, a un sens d'apprentissage accéléré. Il semblerait, d'après les textes que nous recevons, que nous évoluons à une vitesse infiniment plus grande dans la dualité que hors de la dualité, que hors de l'incarnation, que hors de cette expérience humaine. Alors, quand je parle d'évolution, bien sûr, c'est toujours illusoire puisque Dieu n'évolue pas. Dieu est paix constante, permanente, amour infini, stable, inchangeable, invulnérable, et donc n'est pas sujet à l'évolution. Et nous pouvons adopter des formes en tant qu'esprit, et nous pouvons rester sans forme. Et dans la forme, nous évoluons beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que beaucoup d'âmes, qu'on appelle les âmes, choisissent, ont la queue au portillon même, pour venir sur Terre, manifester une expérience incarnée, parce que l'évolution y est beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Parce que la dualité impose des défis qui n'existent pas dans le monde sans forme, le monde de l'esprit. Voilà, alors j'ai fait cette distinction entre le monde de l'unité et le monde de la dualité. Mais dans la dualité, il n'y a pas que des corps, il n'y a pas que une densité. Il y a aussi des esprits divisés également, et on choisit de ne pas se former. Cependant, de retrouver leur nature, puisqu'il s'agit de ça en définitive, qui est extrêmement favorisée par tous les défis. Regardez ce qui se passe dans les États-Unis sur Terre. Nous établissons un couple les défis sont extrêmes, hein, parce que il y a beaucoup moins d'occasions de fuir dans un couple que dans une situation distante. Cette intimité-là nous provoque une des plus fortes occasions d'évoluer sur Terre. Et ce n'est pas pour rien que les hommes sont magnétiquement attirés par les femmes, peut-être presque au sens propre, et que les femmes le sont également par les hommes. Parce que nous avons envie d'évoluer, et nous savons que cette approche de la vie terrestre est une occasion extraordinaire, mais pas la seule, pour évoluer très vite. Parce que très vite, elle nous met en face de nos auto-trahisons et de tout ce qui nous distance, tout ce qui nous distancie de l'amour véritable. Donc, si vous avez des expériences qui incluent la relation de couple, bienvenue, hein, si vous avez des expériences de vie quotidienne où l'ego prend la parole avant l'amour, bienvenue à ces situations, puisque nous pourrons choisir de les éclairer avec les enseignements non-duels, avec la lumière de l'amour, la lumière de la non-dualité. Et puis, j'ai devant moi un livre que je découvre chaque jour davantage, l'Évangile selon Jésus, de Paul Ferrini, qui pour moi est un véritable trésor de non-dualité, d'enseignement sur l'amour sans condition et de pardon véritable. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, je coche certains passages qui me parlent beaucoup et que j'aime partager. Et voilà ce qu'aujourd'hui il me vient de vous partager dans le paragraphe renoncer, le chapitre renoncer au jugement, en page 81. Paul Ferrini reçoit la parole de Jésus qui dit: vous voyez ce que vous choisissez de voir, parce que toute perception est un choix. Or, lorsque vous cesserez d'imposer vos interprétations sur ce que vous voyez, vos yeux spirituels s'ouvriront et vous verrez un monde libre de tout jugement briller dans sa beauté infinie. Les fers qui vous emprisonnent sur terre tomberont et vous serez libre de prendre votre place au firmament parmi les étoiles les plus scintillantes. De là, vous regarderez la terre, comme je le fais maintenant, et vous direz avec compassion: cette terre, je l'ai foulée moi aussi, à l'époque où j'étais effrayé, où j'apprenais à traverser toutes mes peurs. C'est un lieu saint, où chaque ennemi s'est transformé en ami, et chaque ami en frère et en enseignant. C'est une terre sainte où l'illusion de la mort et de la séparation a pris fin. Je me sens privilégié d'avoir fait ce voyage et suis heureux d'être enfin chez moi. Vous saurez alors que vous n'aviez pas à faire ce voyage pour être sauvé. Vous auriez pu rester chez vous sans entacher votre innocence. Mais si vous n'aviez pas fait ce voyage, vous ne seriez pas arrivé à comprendre votre innocence comme vous la comprenez à présent. Voilà, je m'arrête là, bien que ce soit encore plus long. Et le mot innocence a une importance pour moi très grande, en ce sens où il parle de notre culpabilité inhérente en tant qu'humain, inhérente à notre incarnation, inhérente au fait que nous nous sentions séparés les uns des autres, comme si dans notre esprit commun nous avions pensé avoir fait une faute en voulant nous séparer de Dieu par la pensée, alors qu'il s'agit simplement d'une expérience que nous avons décidé de faire avec notre esprit divin, nous l'avons imaginée et donc elle s'est produite puisque notre esprit divin est capable de manifestation. Donc Dieu, bien sûr, dit d'accord à l'expérience humaine sans cautionner sa réalité pour autant. Tu veux imaginer ça, c'est ok. Tu veux imaginer la haine, c'est ok. Tu veux imaginer que tu peux mourir, c'est ok. Tu veux imaginer la guerre, c'est d'accord. Et c'est une partie de la réponse à une question fréquemment posée. Pourquoi Dieu autorise-t-il les guerres sur Terre? Pas seulement les guerres, hein, mais toutes les atrocités, la douleur, les meurtres, tout le négatif apparent. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas réels. Ils sont perçus. Et la perception, même si elle est illusoire, elle n'est pas démentie. Nous le percevons, nous le vivons, nous le ressentons. Parce que nous avons choisi de le percevoir et choisi de le considérer comme réel. Attention, il s'agit là d'un choix. Et ce que j'ai choisi en tant qu'être divin, je peux faire un autre choix. C'est ce choix-là dont il est question aujourd'hui, celui de terminer ce cycle d'expérience que représente la dualité pour joyeusement nous rendre compte que nous sommes encore à la maison, innocents, non coupables, dans la joie de Dieu et sans aucune faute qui ait pu être commise. Et Dieu nous ouvre les bras pour nous accueillir à l'issue de notre voyage illusoire. Voilà. Merci au Saint-Esprit d'être parmi nous cet après-midi pour nous guider dans nos interventions, nos idées, nos réflexions, nos pensées et aussi nos silences lorsqu'ils sont là, puisqu'ils ont aussi leurs mots subtils à dire. J'ai parlé.
tous ces concepts non duels, quelque part ils nous appellent tous, chacun à notre façon, plus ou moins fortement selon les moments, selon les jours. Et puis nous vivons tous des moments où on dit oui, mais sur un plan pratique, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Voilà, je suis pas bien, ou je sens un appel à autre chose. Quelle est ma position? Quelle est ma mission? Comment est-ce que je peux résoudre ce problème d'une manière très pratique? Et on a une partie en nous qui n'a pas envie de finalement en avoir l'impression de planer sur des concepts, des idées, des théories, des analyses. Et en fait, ce dont nous parlons, ce n'est pas du tout une analyse. Et il y a quelque chose en nous qui frappe à la porte. Alors on parle de Dieu et on a l'impression de. On a peur de Dieu et quelque part on veut et on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on a des faux concepts. Et c'est ce fameux ego qui est une illusion. Et ça fait partie de l'incarnation humaine. On ne peut pas venir ici sans ego. Et l'ego, c'est le sens de la séparation, c'est le sens d'être isolé, d'être séparé du reste du monde qui nous entoure. Donc, cette notion d'avoir choisi une expérience duelle commence à prendre un sens. Et le fait de, presque d'avoir le courage, c'est une façon de parler, de dire, mais qu'est-ce qui frappe à ma porte? Qu'est-ce qui frappe à ma porte? J'ai l'impression que c'est le Saint-Esprit, j'ai l'impression que c'est les autres, que c'est je ne sais pas quoi, c'est un Dieu qui me demande des comptes, mais non. C'est moi qui frappe à la porte. Parce qu'il n'y a que moi. Et c'est ça le message non duel, c'est qu'il n'y a que Dieu. Alors on peut dire c'est Dieu qui frappe à la porte, mais quand on dit ça, on dit oui, mais il y a Dieu qui frappe à la porte et puis il y a le reste. Mais non, il n'y a pas de reste. Le reste, c'est une illusion. C'est pour ça que cette notion d'illusion commence à devenir fondamentale. Alors bien sûr, au départ, pendant longtemps, pour les uns et les autres, et certains jours plus que d'autres, ça va nous sembler finalité. Et on a envie même par moments de tout bazarder. C'est juste, c'est ok, bazardons. Ok, on fait l'expérience de tout bazarder, allons-y. Et tout à l'heure, Ravi nous rappelait que, comme dit le courant miracle, la notion du père et du fils, c'est que le père est ce qui est, c'est le vivant. Et le fils est la vie exprimée. Et nous sommes vivants, nous sommes l'expression de la vie. Donc nous sommes la vie. Et donc la notion, le père et moi sommes un, c'est ça dont parlait Jésus il y a 2000 ans. Simplement, je ne peux pas ne pas être vivant. Je ne peux pas être mort, en d'autres termes. Je ne peux pas être mort. J'ai l'impression que je peux. Évidemment, je m'identifie à un corps, et ce corps, je sais qu'il va disparaître tôt ou tard. Personne ne le nie, ça, même dans les rituels, en particulier catholiques, le mercredi des cendres, tu es pierre, tu es poussière, et tu retourneras en poussière, tu viens de la poussière, tout ça, c'est. Et ça a été récupéré par une fausse humilité. Alors qu'en fait, ça parle du corps. Mais on a choisi une expérience qui, pour nous amuser, à percevoir quelque chose de séparé. Donc on invente, on imagine d'une manière incroyablement remarquable un véhicule, isolé au milieu d'un monde qui n'est pas ce véhicule, dans un temps apparemment qui se déroule, un temps linéaire, avec des siècles, des millénaires. Et puis des secondes aussi. Et finalement, on est toujours dans l'instant présent. Qu'on le veuille ou non, on ne peut jamais dans le passé ni le futur. Alors on invente des machines à remonter le temps, mais c'est uniquement en imagination. Donc sur un plan pratique, cette non-dualité, bien sûr, on en parle parce qu'on n'a pas d'autre moyen. Et il faut savoir que on a une partie en nous qui ne veut pas en parler. Qui ne veut pas regarder, qui en a peur. Pourquoi est-ce que cette partie a peur? Par qu'elle s'identifie à un personnage séparé? Or, la non-dualité ou la réalité divine de Dieu, c'est l'unité absolue de toute chose. Donc, ce personnage séparé que je m'imagine être Si vraiment j'accueille la non-dualité et l'unité de toutes choses, ce personnage va disparaître. Donc, ce que je crois être moi, eh bien, j'ai la sensation que ça va mourir. Et c'est vrai. Et donc, je suis terrifié, puisque je m'imagine être ce moi-là. Ce petit moi, ce petit personnage. Alors, j'essaye de faire pour le mieux, d'avoir un peu de pouvoir. Je mets des photos un peu avantageuses sur Facebook, j'essaye de me trouver des relations. Je m'aperçois que je me culpabilise par rapport à des échecs passés, j'essaie d'y remédier, etc., etc., comme ça à l'infini. Et je regarde ça en face maintenant. Et nous regardons ça en face les uns les autres. Seulement avec un regard qui est nouveau, parce que nous-mêmes nous frappons à notre propre porte en disant « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Tu veux continuer ? Est-ce que tu veux que le passé se répète ? Tu es infiniment puissant. Personne ne s'oppose à tes croyances. Tu crois à l'ego ? Ok, tu vis l'ego. T'es satisfait, etc. Oui, évidemment, tu as envie d'être satisfait. Tu as envie de t'étourdir un peu. Hein, avec des carottes que tu te programmes. Des attentes. Des attentes de t'attirer des relations, d'avoir un peu de succès, de gagner un peu des choses, des possessions matérielles, etc. Et c'est ok, parce que tu es innocent, c'est un jeu, tu joues le jeu. Et tu es heureux dans ce jeu. Souvent tu vas répondre, oui, je suis heureux, ça va aujourd'hui. Et effectivement, mais c'est ok. Tu es innocent, tout le monde est innocent, continue à jouer. Et puis si, parce que c'est ce qui se passe, si toi-même ou un frère ou une sœur vient te voir, et là je parle pour moi, je suis en train de parler au nom de l'autre, mais c'est moi, je parle de moi. Toujours, on parle tous, à chaque fois, de soi. On ne rêve que de soi. Et même quand si je vous dis, vous faites ceci, vous faites cela, en fait c'est moi qui me vois faire ceci ou cela. Parce que nous sommes un. Et il n'y a qu'un seul ego, on peut dire. Donc sur un plan pratique, me voilà face à moi-même et qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui frappe à la porte ? C'est moi. C'est l'amour que je suis. Effectivement, on sait tous de quoi on parle, parce que cet amour, c'est qui nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est le vivant. Alors je commence à faire des expériences où quand je m'arrête, sur place, en anglais on va dire « dead in my tracks », je m'arrête là, brutalement, je m'arrête et puis je regarde, j'écoute. Je fais silence. J'arrête de croire que je sais quelque chose là, dans cet instant-là. J'ai en face de moi un frère, une sœur, des frères, des sœurs, des circonstances, une histoire apparemment. Je regarde ça. Et ça frappe à la porte de mon cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux ? C'est là que ça se passe. C'est en toi, c'est pas à l'extérieur, c'est en toi. Et je commence à comprendre que ce que je vois, c'est le reflet de mes croyances. Alors, à certains jours, c'est plus clair qu'à d'autres, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et de plus en plus, nous faisons l'expérience et nous entendons nos frères et sœurs nous parler de leurs expériences où ça devient de plus en plus clair. Mais oui, c'est ça que nous voulons. Et puis, peu à peu, nous apprenons quelque chose. Nous apprenons quoi ? Le lâcher prise. Nous nous sommes entraînés à quelque chose. Comme dit un courant miracle, un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Entraîné à quoi ? On peut dire au lâcher prise. À être présent, là, dans l'instant présent. Là, il y a une mouche qui est en train de marcher, de se promener sur la table. Il y a Sylvain qui a un micro dans la main. Il y a la fontaine qui coule là. Et vous qui écoutez l'enregistrement, vous êtes là à un certain endroit, c'est là que ça se passe. Et c'est toujours là que ça se passe. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui frappe à la porte. Mais c'est nous-mêmes. C'est la voix de l'esprit, c'est la voix de qui nous sommes. Le courant miracle l'appelle la voix du Saint-Esprit. Le courant miracle nous dit qu'il y a deux voix, la voix de l'ego, c'est celle qui crie le plus fort, évidemment, on a choisi cette voie. VOIE et VOIX, la voie de l'ego, l'amusement, le jeu de la séparation. Évidemment, c'est un jeu qui est piégeant, parce que le fait d'être apparemment séparé, de s'amuser à y croire, eh bien, ça apporte de la terreur tôt ou tard, parce que se sent victime de ce monde extérieur, c'est normal. Et donc c'est là qu'il y a un défi formidable, où on s'est jeté dans ce jeu illusoire, mais qui semble bien réel, et donc on semble victime. Et l'ego est toujours victime, c'est pas lui le bourreau, hein, c'est la victime, toujours. Il est victime de ce qui l'entoure. Même un bourreau, il a envie de tuer parce qu'il se sent victime, c'est pour ça qu'il veut tuer. Même quelqu'un qui amasse beaucoup d'argent, on dépend des autres, qui fait des exactions pour avoir de l'argent, c'est parce qu'il pense en manquer, donc il se sent victime, il se sent piégé, il se sent faible, en besoin, en manque. Alors maintenant, on regarde ça en face, ce fonctionnement. C'est d'ailleurs ce que nous dit Jésus dans le grand miracle en disant « Donne-moi la main et regarde ça. Regarde en toi, regarde ces croyances. » Parce que tant que tu ne la regardes pas, elle ne va pas partir. Pourquoi ? Parce que tu y crois et comme tu es maître à bord de ta vie, personne va s'opposer à tes croyances. Parce que Dieu, c'est toi. Tu es l'expression de la vie, tu es le vivant et le vivant s'honore lui-même. Donc le vivant honore le jeu. Le jeu de la séparation. Alors on commence à comprendre pourquoi cette notion d'amour devient fondamentale. Et c'est la clé pour toutes les situations. Toutes. À chaque jour, chaque instant, c'est l'amour qui est là. C'est l'amour qui appelle en mon cœur. C'est l'amour qui va résoudre des problèmes illusoires. Mais qui semblent bien réels, bien sûr. Ça semble réel. Parce qu'il n'y a que l'amour. Et quand on dit que l'amour résout des problèmes illusoires, c'est une façon de parler parce qu'il n'y a pas de problème. Et donc il n'y a pas à résoudre de problème puisqu'il n'y a pas de problème. Mais il semble y en avoir. Et c'est pour ça qu'on parle d'un voyage sans distance. Tout à l'heure, Avi nous lisait un passage de ce livre de Paul Ferrini. Et il semble y avoir un voyage et finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de voyage. Donc il y a un paradoxe. C'est aussi la question de choix. On est appelé à choisir sans cesse pour s'apercevoir tôt ou tard qu'il n'y aura pas eu de choix. Il n'y avait pas de choix. C'était inéluctable, c'était inévitable. Nous retournons vers nous-mêmes, nous revenons à qui nous sommes, nous nous rappelons qui nous sommes. Mais la notion de choix est utilisée temporairement dans un temps illusoire. Et il est tout à fait juste pour nous-mêmes. On va dire, quand je dis juste, ça veut dire que c'est une aide de dire « je veux choisir ». Je veux rechoisir tout le temps, je veux m'entraîner à choisir l'amour et non plus la peur. Je veux choisir de m'ouvrir aux autres, je veux choisir de poser les armes, je veux choisir de regarder différemment. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Et quand j'ai l'impression d'être victime, je me dis, mais cette personne qui semble me martyriser ou vraiment est injuste envers moi, et comment est-ce que Dieu la voit? Mais il n'y a que Dieu. Et Dieu se voit lui-même dans une paix incroyable, totale, inchangeable, éternelle. Ah, c'est cette vision-là que je veux. Là, je veux ça. Je choisis ça. Je le choisis, c'est ça que je veux. Et oui, parce que ce qui m'appelle en moi, c'est moi. C'est cette voix-là qui te dit, mais tu es cela, tu es tout, nous sommes un. Et c'est comme ça pour toute l'apparence de dualité, c'est-à-dire... Un monde de frères et de sœurs, un monde de 7 milliards, et puis d'autres ailleurs. Et tout à l'heure, avant ce groupe, nous parlions avec Avi des extraterrestres avec des théories différentes, en disant finalement, les extraterrestres ne sauvent personne, et même les canalisations qu'on a, c'est pas intéressant, etc. Mais c'est comme si vous disiez, les Africains, les Américains, ou les Australiens, ou je sais pas, les Congolais, ne sauvent personne. Ou les catholiques, les protestants, ou même les... Ceci, cela, ou même Sylvain, sauf personne. Non, on sauve personne. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà sauvé, il n'y a rien à sauver. Et donc, cette pièce de théâtre cosmique, gigantesque, universelle, mondiale, et avec l'ensemble de l'univers, cette pièce de théâtre universelle, où effectivement il y a des milliards de milliards de milliards d'acteurs, personne ne sauve personne. Ensemble, nous nous réveillons à qui nous sommes. Donc, sur un plan très pratique, dans notre vie quotidienne, là, dans notre petit microcosme individuel, chacun d'entre nous, parce que c'est dérisoire, notre petit monde, là, le petit corps que nous semblons être, dans notre petit conditionnement à tel ou tel endroit, dans telle ville, tel village, telle campagne, ce que vous voulez, avec apparemment un petit environnement de relations, d'argent, de possession ou de pas de possession, ou de pauvreté ou de richesse, tout ce que vous voulez, c'est dérisoire. C'est dérisoire, mais c'est un terrain de jeu. C'est le bac à sable. On est là, sandbox, le bac à sable. Ensemble, on joue cette pièce de théâtre. Et donc, dans ce bac à sable, c'est pas les grains de sable qui sont importants. C'est pas le compte en banque ou les relations. C'est l'ouverture du cœur. C'est l'amour, c'est l'ouverture à cet amour. C'est ce choix fondamental de dire, je veux choisir l'amour et non plus la peur. Je veux choisir qui est Dieu, c'est-à-dire, je veux choisir la vie, le vivant. Je choisis l'unité de toute chose. Ah, j'embrasse cela. J'embrasse tout. J'accueille tout. Et ce que pensent mes frères et sœurs, ce n'est pas mon problème. Et les cris de mes frères et sœurs, je les prends en pleine compassion, bien sûr, je les embrasse. Mais je veux voir qui ils sont. Je veux voir qu'il n'y a personne à sauver. Et ça, c'est la vraie humilité. C'est les clés du royaume. Encore une fois, comme on a dit souvent ici, quatre clés. La première, c'est le désir. Et le désir, sans désir, il n'y a rien. Donc on a tous désiré, on a un désir. Et ensuite, mais quel désir, dans quelle direction? Et c'est la deuxième clé, c'est l'intention. Et l'intention, au départ, c'était l'intention de cette pièce de théâtre pour s'amuser à la séparation. Mais maintenant, on change l'intention. Ça ne nous intéresse plus de se battre, de faire des guerres, d'avoir des relations difficiles et d'avoir l'impression de manquer ou de pleurer, etc. Ça ne nous intéresse pas. Sauf de pleurer d'amour, ça c'est autre chose, bien sûr. Alors donc l'intention, on change l'intention complètement. Et l'intention, c'est le réveil. Et c'est le seul but de cet univers maintenant. Alors qu'avant, l'univers, le but, c'était la séparation, s'amuser. C'est le bac à sable incroyable, gigantesque. Universel, omniversel. Et maintenant, ce bac à sable, ça devient un terrain de jeu d'amour. Voilà. Et donc, comment? Eh bien, en autorisant, en permettant, c'est la troisième clé, le permettre. Je permets. Je permets tout. Tout comme Dieu. Dieu permet tout. Comme disait tout à l'heure à vie, Dieu dit toujours oui. Oui, d'accord. Ben oui, la vie est vie, elle est infinie. Et donc, étant infinie, elle dit oui à tout. Elle est infinie. Elle s'étend infiniment, indéfiniment. La troisième clé, donc, se permettre. Je permets. Et puis la quatrième clé, c'est je m'abandonne. Je m'abandonne complètement, je m'abandonne. Mais je m'abandonne à quoi? À qui? À moi-même. À qui je suis? À la vie. À l'amour. Dont j'ai confiance totalement. Je m'abandonne. Et dans ces quatre clés, arrive un quelque chose de supplémentaire qui n'est pas une clé, mais qui est un ingrédient fondamental. Cet ingrédient, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la vie qui vit. C'est la vie qui se vit à travers moi. Le petit personnage que je semble être est rien. Et en même temps, j'accueille son jeu. Je joue avec lui. Je le laisse jouer. Je me vois jouer le personnage. Mais je vois la vie qui joue le personnage à travers moi. Vous comprenez? Et c'est là que les mots s'arrêtent. Alors c'est très pratique la non-dualité. C'est plus pratique que pratique. Et quand vous allez entendre autour de vous des gens qui vous diront, et ça se fait beaucoup, c'est normal, oui mais tout ça c'est théorique sur un plan pratique, mais c'est pratique plus que pratique. Parce que c'est la seule clé à toutes les situations. C'est les clés de déblocage d'un blocage qui en fait n'était pas réel et qui était imaginé. Et donc on va à la source du blocage, qui est l'imagination. Et cette imagination, où est-elle? Elle est en moi et nulle part ailleurs. Donc je ne m'occupe que de moi. Je ne m'occupe que de ma vision nouvelle. Alors on parle de Nouvelle Jérusalem, c'est ah oui, on parle de nouveau monde, oui. Effectivement, nous allons vivre des choses extraordinaires. Parce que nous changeons de vision intérieure. Et comment? en laissant l'Esprit nous donner la vision de qui nous sommes, de qui nous avons toujours été et de qui nous serons toujours. Encore une fois, c'est très, très pratique. Et si ça semble pas pratique, c'est à cause des fausses croyances. Parce que quand on parle de Dieu, pour la plupart encore de nos frères et sœurs, et peut-être de moi-même à certains moments, ça semble être un Dieu extérieur, quelqu'un qu'il faut satisfaire. C'est inconsciemment, je fais une projection d'un Dieu anthropomorphe, c'est-à-dire d'un Dieu à visage humain, d'un Dieu séparé, comme s'il y avait Dieu et autre chose, mais il n'y a pas Dieu et autre chose. C'est ça l'erreur fondamentale. Il y a la vie. D'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se dire on est là, vous et moi, ensemble. Ça vient d'où ça? La vie. Et là, évidemment, les mots s'arrêtent. C'est fascinant. Nous sommes, je suis, nous sommes. Là. Évidemment, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre l'infini, l'éternité, l'éternel moment présent. Nous sommes appelés simplement à le laisser vivre à travers nous, le laisser s'exprimer et être au service. Et nous faisons de plus en plus d'expériences où, lorsque nous sommes au service de cet amour incroyable qui est la seule réalité de l'univers, eh bien, nous vivons une joie inconnue, des nouvelles situations, des guérisons, des miracles, des choses inattendues, des synchronicités, des nouveaux talents médiumniques ou autres qui nous paraissaient au départ un peu curieux, exceptionnels et qui finalement se révèlent tout naturels, car nous n'avons aucune limite. Vous comprenez, mes amis, que cette non-dualité qui paraît au départ théorique, livresque, mais c'est ce que tout le monde cherche, c'est évident, c'est ça la clé, il n'y en a qu'une, et c'est qui nous sommes. Et on ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas décréer qui nous sommes, on ne peut pas disparaître, on ne peut pas ne pas être la vie. La vie est la vie, et la vie c'est nous, et nous sommes la vie. Et ça, c'est éternel, immuable, inchangeable. C'est la loi de ce qui est. Et ça, c'est amour. C'est amour. Et c'est un délice incroyable de laisser cet amour s'étendre, se manifester, se découvrir lui-même éternellement. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici, sur cette petite planète bleue, là, qui pour nous nous paraît grosse, mais qui, à l'échelon de l'univers, est toute petite. La clé, c'est toujours, toujours, toujours l'amour. Parce qu'il n'y a rien d'autre que l'amour.
J'ai tiré une carte, et sur cette carte, il y avait une leçon, la numéro 314. Je cherche un futur différent du passé. Et autant si j'avais tiré la carte de Sylvain, elle m'aurait parlé au premier abord assez facilement. Autant celle-ci, j'ai eu besoin d'aller lire la leçon que je n'ai pas encore travaillé, mais qui finalement, en lisant, je me suis rendu compte qu'elle était déjà acquise. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Le futur est maintenant simplement reconnu comme une extension du présent. Les erreurs passées ne peuvent y faire aucune ombre, de sorte que la peur a perdu ses idoles et ses images, et n'ayant pas de forme, elle n'a pas d'effet. Maintenant, la mort ne réclamera pas le futur, car c'est la vie, maintenant, qui est son but, et tous les moyens dont il est besoin sont fournis avec joie. Qui peut se chagriner ou souffrir quand le présent a été libéré, sa sécurité et sa paix s'étendant à un futur tranquille et plein de joie? Père, nous avons fait erreur dans le passé et nous choisissons d'utiliser le présent pour être libres. Maintenant, nous laissons le futur entre tes mains, laissant nos erreurs passées derrière nous, sûr que tu tiendras tes promesses présentes et guidera le futur dans leur sainte lumière. En lisant cette leçon, je cherche un futur différent du passé. Ça m'a interpellée parce que je ne cherche plus le futur. Je cherche à vivre de plus en plus pleinement le présent. Je ne cherche plus à faire des plans sur la comète. Je ne cherche plus à imaginer comment pourrait être le futur. Quelquefois, j'ai des visualisations un peu spontanées, alors j'accepte. Je m'interroge toujours. D'où ça vient ? Et puis, dans ma relation avec le Saint-Esprit, avec tous ceux qui forment la lumière, qui peut être parfois la Sainte Famille, parfois Dieu, parfois mes anges, parfois des êtres de lumière qui ont été des phares parmi nous. C'est toujours très difficile pour moi de poser des questions, puis d'émettre des intentions. Ce qui est une phrase que j'ai lue qui m'a vraiment marqué et qui revient constamment, c'est « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Ce qui fait que pour moi, c'est vraiment difficile de demander quelque chose. Ce que je me dis que de toute façon, ce que je demanderai, ça ne sera jamais aussi bien que ce qu'ils peuvent me souhaiter. Alors quand il me vient une phrase comme « Ah, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela », aussitôt je rectifie en disant « De toute façon, vous savez mieux que moi ». Alors aidez-moi à être de plus en plus en contact avec vous. Et quand ta vie tout à l'heure a terminé en disant « Merci au Saint-Esprit d'être parmi nous », cet après-midi. En fait, le Saint-Esprit est évidemment constamment parmi nous. Il suffit juste d'être dans l'écoute pour que la connexion soit plus évidente et elle peut se manifester de différentes manières. Elle peut se manifester par une sensation forte au-dessus de la tête, une main caressante, des fourmillements, des tremblements, une chaleur, une puissance, une fermeté. Ce qui fait que quand je commence ma matinée, la première chose que je demande, c'est de rester le maximum en connexion avec cette forme d'amour qui nous entoure et de me mettre à son service. Je cherche un futur différent du passé. Oui, effectivement, à partir du présent, si je le laisse se déployer, eh bien il me conduit dans un futur. Mais qu'importe. C'est toujours là, maintenant. Et il se déploie dans une infinie lenteur.
Alors, s'il y a bien une chose qui est commune à l'ensemble des humains, c'est que chacun et chacune souhaite le bonheur. Que chacun et chacune souhaite aimer et être aimé. C'est quand même étonnant qu'on partage tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne souhaiteraient pas être heureux? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, j'en connais pas, hein, des gens qui ne souhaitent pas être heureux, ou qui ne souhaitent pas être aimés, ou qui ne souhaitent pas le bonheur. La réponse intuitive que j'ai, c'est le bonheur est en moi, et j'ai l'appel pressant de ce bonheur à s'exprimer, qui fait que ça dirige ma vie, que ce que je fais dans ma vie, c'est pour répondre à cet appel pressant du bonheur qui est déjà en moi, qui veut se manifester. Et pour moi, c'est une relation forte à la non-dualité, ce bonheur et cet amour que je ressens en moi et qui ne souhaite que se manifester plus. Quand je suis malheureux, c'est comme si je tirais sur l'élastique pour mieux le lâcher et revenir dans le bonheur. Ça me donne un contraste sur le bonheur tel que je suis motivé dans la dépression encore plus à trouver mon bonheur. Quelqu'un disait, quand vous êtes au fond de la piscine, quand vous avez coulé, coulé, coulé dans la dépression, alors un simple coup de pied vous ramène en haut. Mais c'est parce que vous avez touché le fond que c'est possible d'aller revenir à la surface. Et c'est cette notion de perspective, elle est, je pense, elle est importante, et c'est une des caractéristiques qui, pour moi, donne un sens à la dualité. Nous nous sommes extraits de l'amour pour avoir une perspective sur l'amour, pour faire l'expérience du non-amour par opposition à l'état d'être amour, qui n'est pas une expérience, mais un état. Alors quand je fais l'expérience du non-amour en tant que personne dotée du libre arbitre, j'ai le choix de terminer cette expérience et de revenir à l'amour. Et on entend de temps en temps la question, mais moi je veux me réveiller, pourquoi je ne me réveille pas du rêve? Comment je me réveille du rêve? Parce que moi j'ai envie de me réveiller du rêve. D'accord, c'est une illusion, bon bah d'accord, mais où est la porte de sortie? Moi je veux y aller, dites-moi comment y aller. Je n'ai pas envie de rester dans cette illusion, je veux sortir. Laissez-moi sortir! Alors, c'est vrai que c'est ça le désir d'être heureux, c'est le désir de sortir aussi de l'illusion. Nous l'avons tous en nous, parce que l'état de Dieu, c'est l'état de bonheur absolu, c'est l'état d'amour absolu. Alors, une des méthodes, qui n'est jamais une recette, mais une voie, c'est la méditation et faire silence, et commencer à être à l'écoute de ce qui se passe, et en premier de moi-même. Et faire silence, c'est aussi être à l'écoute des pensées qui rompent le silence. Et j'ai trouvé un passage de, à nouveau, l'Évangile selon Jésus, qui parle exactement de non-dualité, puisque le chapitre 11... c'est guérir la division du moi. Et à la page 170, il dit « Revenir à vous-même est l'essence de la méditation. Vous prenez conscience de vos pensées et voyez comment elles vous font sortir du silence. L'éveil se produit lorsque vous prenez conscience que vous êtes endormi. Il n'y a rien de particulier à cela. En ce moment, vous êtes éveillé, puis vous oubliez et vous vous endormez. La douleur, l'inconfort et le conflit vous tirent de votre sommeil. Ne résistez pas à vos meilleurs guides. Remerciez-les d'être venus. Remerciez-les de vous ramener à l'instant présent. Ils vous ont fait le cadeau le plus profond qui soit. À l'instant présent, vous vous autorisez simplement à être. Inutile d'être là pour quelqu'un d'autre. Il vous suffit d'être. Être désintéressé. Être sans jugement, sans règle, juste être. Voilà la fleur d'acceptation. Le Christ est un être, pas un devenir. Voilà, j'ai trouvé intéressant le fait de dire que quand je prends conscience que je suis endormi, c'est le moment où je me réveille. Et j'ai trouvé intéressant que la douleur, l'inconfort sont des guides précieux pour nous ramener à l'instant présent et aussi pour nous rappeler l'humilité. C'est quoi le rôle de la douleur, entre autres, hein? C'est de d'ébranler nos certitudes. Tout d'un coup, mon corps souffre. Hein? Tout d'un coup, je suis dans une douleur ou une souffrance psychologique. Et tout d'un coup, je me rends compte que je ne sais rien. Je suis à 30 secondes de mourir. Et tout d'un coup, je suis dans une humilité. Je peux être dans une humilité incroyable. Tout d'un coup, je peux pardonner véritablement. Pourquoi ? Parce que il y a une part de mon esprit qui a capitulé. La part de mon esprit qui croit savoir des choses a capitulé. Et cette part, c'est l'ego. Et dans la méditation, je peux inviter l'ego à se tranquilliser. Et lorsque les pensées apparaissent, je peux les observer depuis la part tranquille. Donc je ne suis pas mes pensées quand je les observe. Et la part qui observe ces pensées, c'est la vraie part de moi. C'est celle qui est éveillée. C'est celle qui est témoin. Si je suis témoin de ma peur, je ne suis pas la peur. Je suis celui qui observe la peur. Et cette présence qui observe la peur, c'est une présence intemporelle, qui n'a pas de forme non plus. C'est une conscience pure. À ce moment-là, je suis dans mon essence. Et je peux cultiver ça, parce que bien sûr, je me rendors. Hein, à la seconde d'après ou 10 minutes après, je repars dans des croyances fausses et je m'éloigne de cette présence qui est continuellement en moi, mais que je n'honore pas à certains moments. Donc c'est là, cette présence, on peut dire c'est le bonheur aussi. C'est aussi l'amour qui est en moi. C'est là tout le temps. Mais est-ce que je l'écoute ? Comme disait Odile, le Saint-Esprit est là tout le temps. Il est tout le temps... Il me donne tout le temps la main. Mais parfois, je suis tellement occupé à penser autre chose que je ne m'en rends pas compte que je suis accompagné. Et je ne pense même pas à demander parce que je suis dans mes cogitations et dans mes croyances. Alors, nous sommes dans un système de perception qui utilise les sens du corps pour conforter les croyances que nous avons à propos de la séparation. C'est-à-dire que je vois un monde séparé parce que je crois qu'il est en effet séparé. Je vois la dualité parce que je crois que c'est réel. Je crois, hein, c'est-à-dire que ça vient de mon esprit. La perception que j'ai de ce monde vient d'un choix de mon esprit. Donc ce n'est pas le corps qui voit, c'est l'esprit à travers le corps qui conforte ses croyances en laissant monter à la perception que ce qui est conforme aux croyances. Donc toute guérison dans ce sens-là vient en effet d'un changement d'esprit. On dit, ah, il a changé d'esprit à ce sujet. Il a changé d'avis. Et donc, j'ai cru en la séparation et je peux changer d'avis et je peux changer d'esprit. Alors, pour certains, ça se fait en un claquement de doigts, ceux qui s'éveillent d'une manière brusque. Il y en a quelques-uns sur Terre. Certains disent que l'éveil peut venir entre deux pensées, sans qu'il y ait spécialement besoin de faire quoi que ce soit avec l'ego. En vérité, je ne sais rien à propos de l'éveil. Rien du tout. j'ai tout oublié. En fait, je sais tout, mais pas de manière consciente et pas de, dans ma perception actuelle. Donc, ça me rassure de savoir que je le sais, mais que j'ai oublié. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, je m'en rappellerai. Et ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est que nous sommes tous, sans exception, sur une pente savonneuse qui conduit à l'éveil. Tous. Il y en a qui sont en haut de la pente, d'autres qui sont en bas de la pente, mais tous glissent de manière irrémédiable vers l'éveil. Et c'est quoi l'éveil ? C'est savoir qui nous sommes vraiment, être qui nous sommes vraiment. Se réveiller à notre vraie nature. Pourquoi nous sommes sur une pente savonneuse ? Parce qu'en vérité, notre vraie nature n'a jamais changé et nous sommes encore et toujours notre vraie nature. Donc, c'est un processus qui prend apparemment du temps de glisser sur la pente. Mais comme nous sommes déjà qui nous sommes, forcément, nous arriverons au bout de la pente à nous réveiller, forcément, puisque nous nous sommes en fait endormis qu'en imagination. Donc c'est très rassurant de savoir que notre désir profond d'être heureux sera forcément comblé. Ça prendra du temps, mais ça sera comblé. Notre désir d'aimer sans condition sera comblé. Notre désir d'être aimé sans condition sera comblé de manière certaine, parce que nous sommes déjà cela. Ça prendra du temps, mais comme le temps, c'est aussi une bulle de savon qui va éclater lorsque nous dirons « Maman, j'ai plus de liquide dans mon truc qui fait des bulles. » Donc j'arrête de créer des bulles de temps, des bulles d'espace. J'ai joué en toute innocence à faire des bulles. L'univers aussi est une bulle. Ceux qui vivent des expériences de mort imminente, j'ai entendu ça il y a 2 jours sur ici et maintenant, se voient en train de s'éloigner de la Terre, de voir le Soleil, le système solaire, de voir la galaxie, de voir les galaxies, puis finalement de voir l'univers entier avec une courbure, comme une bulle. Et en s'éloignant encore, ce qu'ils perçoivent, c'est d'autres bulles, d'autres univers. Et entre les univers, le vide absolu, le néant total. Et lorsqu'ils s'éloignent encore, ils s'aperçoivent que, en fait, c'est l'univers microscopique et l'univers macroscopique qui sont exactement les mêmes, que ces bulles-là sont des atomes et qu'en s'éloignant encore, c'est de la matière, etc. Et ceci sans aucune fin. Voilà, ceux qui sortent de leur corps lors de ces expériences témoignent aussi qu'à un moment donné, ils sont inondés d'une lumière qui est indescriptible parce que c'est une lumière qui les aime. Ils disent, je ne sais pas comment décrire qu'une lumière peut m'aimer. C'est magnifique, c'est très touchant. Mais ils sentent cet amour très fort. C'est dans les cellules, c'est dans un ressenti puissant. Ça me touche beaucoup d'entendre, je ne sais pas comment une lumière, exprimer avec des mots qu'une lumière m'aime, mais je le sens. Je le sens intimement et profondément. Ceci peut nous parler de l'amour universel, de l'amour inconditionnel de Dieu, dont nous pouvons avoir certaines révélations à ces occasions-là de passage entre deux mondes, entre deux états de conscience ou deux réalités différentes. Donc méditer honnêtement, et quand je dis méditer honnêtement, c'est pas, vous avez vu comme je médite bien, hein, c'est pas l'ego qui déclame être spirituel, parce qu'un ego spirituel, c'est encore celui qui prétend. Et dans quelque chose d'authentique, il n'y a rien à prétendre, cela est, simplement. Donc je me retire et je fais silence. Ça vient d'un désir profond de laisser l'agitation et la division se calmer en moi. Qu'est-ce qui se calme en vérité ? La croyance. L'ego n'est qu'une croyance. C'est la croyance d'être séparé qui se calme. Comme l'étang qui est troublé par un caillou que j'ai jeté dedans est agité, et lorsque je ne jette pas d'autres cailloux, ben il se calme. Et donc c'est l'étang de ma conscience pure. Lorsque je fais silence, j'arrête de jeter les cailloux de mes pensées qui font des rides et qui perturbent la paix de l'étang. Et lorsque l'étang est enfin calme, je suis en contact avec mon essence intime, celle qui ne croit pas à autre chose qu'à la paix éternelle et qu'à l'amour sans condition. Et c'est ce qu'on peut appeler par moments des instants de grâce, les moments où je suis tout simplement, je suis. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Dans ces moments, en vérité, le temps s'efface. Parce que le temps ne joue aucun rôle dans ces expériences. Ces expériences peuvent sembler très longues ou très courtes, tout simplement parce que le temps s'éclipse. Pourquoi le temps s'éclipse ? Parce que je sors de la perception qui nécessite que le temps existe. Et j'ai changé mon esprit à propos de la croyance dans le temps. Donc, je crée ce miracle. Je crée cette évasion du temps. Je ne suis pas non plus dans l'espace. Certains, dans les méditations, sentent qu'ils flottent. Qu'ils flottent dans l'espace. Ils ne sentent plus leur corps. Ils se sentent une présence. Mais ils ne sentent plus leur corps. Donc il n'y a plus non plus la notion de haut, de bas, de gauche, de droite. Il n'y a plus la notion d'espace. Pourquoi il n'y a plus notion d'espace ? Parce qu'il n'y a plus besoin d'entretenir cette croyance qu'un espace est nécessaire pour mes expériences. Je trouve que c'est très puissant, cet état de méditation dans lequel le temps et l'espace semblent se dissoudre, que le corps aussi perde sa consistance. Et que qu'est-ce qui reste, hein? La question c'est qu'est-ce qui reste? L'essence, notre essence, celle qui ne peut pas s'effacer, celle qui est constante, invulnérable, pur amour. Et bien sûr que dans ces états, notre cœur est touché par la grâce de cette essence. Et c'est une forme d'éveil. Parfois il est très bref, parfois c'est un aperçu. On peut appeler ça une révélation, mais c'est la révélation intime de notre essence. Et quelle est cette essence ? C'est l'essence de Dieu, c'est notre essence pure, notre esprit qui n'est pas dans la forme, pas dans le temps, pas dans l'espace, et pas non plus dans le monde. Donc la méditation est une des portes. Hein, la méditation véritable. Et plus je fais silence, et plus j'entraîne mon esprit à voir autrement, à voir le monde autrement. Le monde peut ne pas être aussi menaçant quand j'ai trouvé ma paix grâce à cette connexion à l'intérieur. Et comme je disais en introduction, le monde n'est qu'un reflet de mes pensées. Si j'ai des pensées de paix, je pourrais avoir une vision de paix sur l'ensemble de l'humanité, que ce soit les personnes que le monde appelle négatives ou les personnes que le monde appelle saintes. Il n'y aura plus cette différence, parce que tous sont là pour réaliser leurs expériences, et tous en sont à un chemin différent sur la voie de leurs expériences, qui passe par toute une collection d'états différents, plus ou moins éloignés de l'amour. Et tout ceci, en fait, n'a pas d'importance, n'est pas jugé. Le criminel dans cette vie pourra être quelqu'un de très bon et de très charitable dans une autre. Et il a fait deux expériences qui l'ont aidé à sentir le contraste avec l'amour, la perspective. Donc je peux le regarder avec les yeux de Dieu, comme disait Sylvain. Comment Dieu voit cette personne ? Comme étant une manifestation du pur amour de Dieu, rien d'autre. Donc, je m'occupe de ma vision. Avant tout, je suis déterminé à voir, par-dessus tout, je suis déterminé à voir, c'est une des leçons du cours en miracle. À voir quoi ? À voir la réalité, à voir la vérité. Et quand je dis ça, j'entraîne mon esprit à quitter l'illusion. Et mon cœur à prendre de plus en plus de place dans le chemin du retour, qui est un chemin sans distance et qui ne prend pas de temps du tout. Mais apparemment, dans cette bulle de temps et d'espace que j'ai créée, ça semble prendre du temps. Donc on peut se réjouir d'avoir le temps à notre disposition pour faire des expériences, pour séparer les effets des causes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous abandonnions l'idée que le temps est nécessaire. Il s'agit vraiment de ça. Il s'agit d'arrêter de croire que le temps nous sert à quelque chose. Il nous a servi, et puis nous arrivons au bout de son utilité. Le bébé qui a assez joué avec son hochet, il a grandi, il balance son hochet. Le hochet ne l'intéresse plus. Maintenant, c'est d'autres jouets qu'il veut expérimenter. La dualité, c'est notre hochet. Nous en avons tiré ce qui était bon pour nous. Et maintenant, joyeusement, nous quittons le bac à sable et nous délaissons les jouets qui n'ont plus d'utilité. Voilà, de ça vraiment, nous pouvons nous réjouir quand nous avons ces révélations de notre essence. Et ce ne sont pas les outils pour nous révéler à nous-mêmes qui manquent en cette période. Ils sont innombrables. Je dirais, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. C'est l'abondance absolue. Et chacun trouvera bien sûr celui qui lui correspond parfaitement, que ce soit un cours en miracle ou tout autre ouvrage ou technique. C'est en floraison actuellement sur Terre comme jamais. La lumière est là, tout autour de nous. Mais nous avons besoin de la choisir. Il n'y a que nous qui pouvons la choisir. Tant que nous choisirons de rester dans l'obscurité, alors ce choix sera respecté. Parce que Dieu dit toujours d'accord. Voilà, donc choisissons, puisque c'est avec ça que nous changeons d'esprit. Choisissons.
J'ai tiré la leçon 316. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. Et en fait, de plus en plus, là, dans ma vie, en fait, je rentre dans un... Malgré moi, dans un niveau d'unité. Enfin, même si je reviens en permanence dans la dualité, mais il y a quelque chose qui se fait, en fait, qui se travaille malgré moi à un autre niveau et qui m'amène au niveau de l'unité. Et... Tout à l'heure, Sylvain, tu parlais de, effectivement, que du coup, à ce niveau-là, on pouvait avoir des dons de médiumnité, des synchronicités en permanence, et je peux vivre ça. Là, je tremble, en fait, quand j'en parle. Parce qu'en fait, il y a des moments de joie et des moments de vertige, de tremblement, de... là, ce que je sens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si c'est l'ego ou si c'est autre chose qui est là. Mais j'ai une trouille, mais alors monstrueuse, parfois, de cet univers-là. Je pense que c'est mon ego à ce moment-là qui doit flipper. De se dire non, tu vas pas aller là. Et alors j'ai les jambes qui tremblent, j'ai mal au ventre, enfin c'est physique. Alors après je peux l'observer, donc j'observe et puis c'est ok. Hein, voilà. Mais ça me là, c'est assez particulier d'être dans ces voilà, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui m'appelle profondément et qui est malgré moi. C'est-à-dire que je ne sais même pas si j'ai un choix à faire. Je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas. J'ai peut-être déjà fait, mais voilà, maintenant, ça y est, c'est fait, ça se fait. Ça se travaille tout seul, au fond. Mais voilà, il y a quelque chose en moi qui a une trouille dingue de ça, quoi. Voilà. Cette nuit, je me suis réveillée avec une tachycardie monstrueuse, comme si j'avais fait un 100 mètres. Bah, c'est pareil, j'ai souri parce que j'ai senti que c'était que c'était quelque chose de l'éveil qui était là et qui se travaillait. Donc maintenant que je l'accepte et que je dis oui à ça, c'est quand même mille fois plus facile. Alors qu'avant, j'étais quand même beaucoup plus dans la résistance. Mais voilà, là, quand j'en parle, ça tremble, quoi. Il y a quelque chose en moi qui tremble, tout ça. Parce qu'il y a un endroit où je trouve que ces niveaux-là, c'est vertigineux. Voilà, être dans le niveau d'unité où effectivement il n'y a pas de mort, effectivement, parce que je peux toucher ces niveaux-là. J'ai qu'une envie, c'est de revenir à un autre niveau. Voilà. Et donc, je suis dans la résistance. Alors, tu parlais tout à l'heure de la pente. Moi, je sens que je glisse. Je tiens un autre truc qui retient, qui est dans une espèce de résistance. Mais ce que je vis aujourd'hui, c'est que la résistance est, en fait, c'est comme si il y avait quelque chose en moi qui avait pris, enfin, en gros, l'âme au bout, je sais pas quoi. L'esprit, je sais pas trop quoi mettre comme mot. A pris le dessus sur l'ego, donc c'est beaucoup moins violent en fait. Hein, le travail est beaucoup moins violent et enfin voilà, il se fait plus dans la souffrance. Je l'observe, ça se fait. En tout cas, je sens quand même la résistance vraiment qui est là et même ici. Hein, même ici, je la vis. Même ici, je la vis en fait. Je viens, je sens que j'ai, enfin voilà, que j'ai à l'aide. Enfin, que c'est, je sais pas non plus comment mettre des mots là-dessus, mais voilà, que c'est à un moment donné, c'est bien pour moi d'être là. Mais je sens des fois mon envie de partir, parce que des fois, je ne supporte pas ce qui est dit. Alors qu'en même temps, ça me parle énormément, qu'il y a toute une partie de moi qui ça parle mais énormément. Mais il me faut 2 heures pour que comme s'il y avait un truc qui avait besoin de se liquéfier à un moment donné. Sinon, ça résiste, quoi. Et là, j'avais vraiment envie de partir. Voilà, donc je parle pour éviter de partir. Merci. Effectivement, ce processus se fait et je peux aussi en témoigner. Je viens de vivre une période où j'ai pu toucher beaucoup de résistances. Et face à ces résistances, utiliser beaucoup de moyens qui sont à ma disposition, comme la danse, le yoga du son, des méditations actives. Mon piano et ainsi de suite. Et puis, avant, quand j'étais dans ces périodes-là de travail profond, j'avais toujours un de ces moyens qui réussissait à liquifier, à aplanir, à calmer et à revenir dans l'amour. Et puis, là vraiment, c'était extrêmement fort. Et rien de tout ce que j'ai pu faire, rien n'arrivait à calmer cet ego qui était là, jusqu'à accepter de ne plus rien faire, juste être dans l'acceptation. Il n'y avait plus qu'une chose qui me calmait, c'était la méditation. Rester en silence avec cette acceptation. Et là, j'ai compris qu'en fait, le processus se faisait et qu'il y avait juste à observer ce processus qui se faisait. Il n'y avait plus rien à faire, c'est fini. C'est là, ça se déploie, ça se fait. Et finalement, c'est super confortable de ne plus rien avoir à faire. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est le grand repos. C'est la paix. Alors, c'est plus des moments de joie. Pour l'instant, je revis plus la joie dont parlait Carole la semaine dernière. Cette joie que j'ai pu toucher, je la ressens plus de cette manière-là. Il y a plutôt un calme, il y a plutôt une neutralité. Il n'y a plus trop de haut et de bas. Une sorte de calme olympien qui s'installe.
un calme olympien qui s'installe. Et vous qui écoutez cet enregistrement, et nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous faisons? Apparemment, on peut faire des choses, mais en fait, on respire. Et cette respiration est... Il y est très souvent fait allusion maintenant de plus en plus, en particulier par Yeshua, Jésus, par aussi beaucoup d'autres enseignements, disons directives ou orientations, conseils, suggestions. Respirer. Dans la voie de la maîtrise de Jayem, canalisée par Jayem, qui vient de Yeshua, il y a une notion fondamentale, une notion clé qui est la suivante. La respiration d'abord, le mental en dernier, le cœur et le ressenti au milieu. La respiration d'abord, le mental en dernier, et le cœur et le ressenti au milieu. Et de plus en plus, nous apercevons que ces groupes que nous formons, qui d'ailleurs transcendent le temps et l'espace, et vous qui écoutez l'enregistrement, vous faites partie en ce moment de ce groupe. Et donc nous pouvons ensemble, effectivement comme si nous nous donnions la main dans ce groupe qui s'étend, qui s'agrandit, et simplement respirer ensemble en nous donnant virtuellement la main. Mais nous sommes vraiment là parce que nous sommes un. Donc il n'y a pas de limite à cette imagination. Et quand on nous dit reprenez votre pouvoir, il n'y a pas de limite. Ne mettez plus de limite à rien. Donc cette imagination d'être ensemble, de respirer ensemble en se donnant la main là maintenant, tout de suite. On prend son temps, on respire. Et cette paix, ce besoin d'action, c'est la paix qui est là. Et puis, tout à l'heure, Estelle nous disait, voilà, je parle pour ne pas foutre le camp. Et ça nous faisait rire, et elle, la première, qui a ri bon cœur. Effectivement, nous connaissons tous cela. La notion d'ennui vient du fait d'avoir besoin de faire quelque chose pour se sentir en sécurité ou pour sentir qu'on a un peu de valeur. Mais là, en ce moment... Nous pouvons choisir, si ça vous plaît pas, vous le faites pas, c'est tout. De toute façon, on respire. Nous pouvons choisir ensemble, en tant que groupe, en tant que si deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, je suis moi le Christ, que nous sommes tous. Bien, nous respirons. Nous sentons notre corps qui se détend. Peut-être depuis le bout des pieds, les orteils, et puis en remontant peu à peu, progressivement. Chacun à sa manière. Les jambes, les cuisses, les épaules. Peu à peu, les bras. Le visage qui se détend, le cuir chevelu. À votre façon, à vous. Chacun à sa manière. Et nous revenons à cette conscience de nous donner la main en respirant ensemble. Alors le mental est en dernier, il est là-bas, il est au service, très bien. Mais au milieu, au centre de ce cercle que nous formons, il y a le cœur et le ressenti. Ce cœur que nous sommes, cet amour que nous sommes. Et dans notre folklore humain, là, l'image du cœur, c'est celui qui exprime l'amour. Je t'aime, mon cœur est ouvert envers toi, etc. C'est ce symbole de l'ouverture à l'amour. Le cœur est le ressenti. Et on laisse le ressenti se produire. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ou même si c'est peut-être un ressenti temporairement un peu négatif, ça peut arriver, c'est OK. Et nous pouvons avoir le ressenti vraiment de ce groupe que nous formons, qui n'a pas de limite. Le temps et l'espace est transcendé. Il y a ceux qui sont autour de cette table, ici chez Avi, il y a ceux qui écoutent l'enregistrement. Et puis il y a aussi tous ceux que nous accueillons dans ce cercle, dans notre cœur, toutes nos relations auxquelles nous pensons maintenant. Et nous commençons à ressentir cette joie de faire les choses ensemble. De laisser le vivant s'exprimer à travers nous, ensemble. Et cette respiration qui vient en premier, c'est un outil excellent. Quand nous avons les pensées qui dévient, c'est très bien, hop, on se refocalise sur la respiration. Prends une profonde respiration, tranquillement. Le mental qui explique, c'est bien, c'est un serviteur, il est là-bas au bout. Mais au centre, c'est le ressenti et le cœur. Le ressenti, c'est notre guidance profonde. Cette voix qui nous dit « va où tu te sens bien ». Regarde ce qui fonctionne pour toi, ce avec quoi tu te sens bien. Alors nous l'accueillons pour nous-mêmes et puis aussi pour nos frères et sœurs. Pour ceux qui sont dans ce cercle qui s'étend sans limite d'ailleurs. Parce qu'après tout, s'il n'y a que Dieu et que Dieu est tout, et que si nous sommes un, quel est le caractère exceptionnel de se laisser ressentir cette unité en prenant prétexte d'un groupe précis comme ce rassemblement chez Avi autour de cette table, comme cet enregistrement que vous écoutez dans votre monde en vous ressentant unis à tous ces frères et sœurs. Et puis vous laissez, nous laissons notre cœur s'étendre pour ressentir cette présence, cet amour que nous sommes. Et nous comprenons une fois de plus, peut-être un peu plus profondément, ce qui est dit dans l'introduction du cours en miracle, très clairement. Ce cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour qui est bien au-delà de ce qui peut s'enseigner. En revanche, ce cours vise à ôter ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour. Alors bien sûr, ce n'est pas que le cours en miracle, c'est toute notre expérience de vie à chaque instant. En particulier, ce groupe que nous formons ensemble, ce cercle d'amour. Et c'est notre affaire à chacun. C'est pas l'affaire de l'autre à côté de moi ou auquel je pense. C'est mon affaire à moi. C'est toujours mon affaire. C'est toujours moi qui décide de ce que je veux voir expérimenter. Alors les mots sont répétés effectivement. La lecture, la répétition, la lecture, la répétition, qui mène à davantage de lecture et de répétition, qui mène encore à davantage de lecture et de répétition, et c'est utilisé, c'est OK. Et puis en même temps, maintenant vient de plus en plus cette notion de expérimenter, de vivre concrètement cette union d'amour entre nous, cette prise de conscience concrète à chaque instant, en toutes circonstances, que nous sommes vraiment un. respiration profonde, simple. J'inspire le vivant, j'expire le vivant. Pendant longtemps, nous avons fait des expériences en ayant la sensation d'être comme dans un canot de sauvetage individuel. Ça existera toujours d'une certaine manière, parce que nous sommes seuls responsables de nos choix. Mais en même temps, maintenant, d'une manière concrète, expérimenter davantage concrètement, il y a cette notion d'être ensemble, de faire les choses ensemble, donc d'avoir davantage d'expériences de télépathie, de présence, de synchronicité entre nous, de retrouvailles, de relations amoureuses inexplicables, d'ouverture à l'autre, quel que soit ce qui peut sembler des risques. Mais y a-t-il un risque en amour, puisqu'il n'y a que l'amour, n'a pas de sens. Donc l'illusion du risque en amour, c'est vraiment une illusion. L'amour est infini et il n'y a que ça qui existe. Et donc nous commençons de plus en plus à le vivre, à l'expérimenter, à nous ouvrir comme des enfants confiants, conscients, confiants. En respirant ensemble, en nous donnant la main, en nous accueillant profondément, simplement les uns les autres, avec notre apparence, dans tel ou tel corps physique, tel environnement, tel conditionnement. Mais cet amour, cet accueil amoureux total, permet de tout transcender. Et donc d'aller au-delà de l'apparence, et de ne plus être piégé par cette apparence, de ne plus être bloqué par cette apparence. Et vraiment d'atteindre cette conscience de la présence de l'amour qui a toujours été là, d'atteindre cette conscience de la paix qui a toujours été là. Et maintenant, elle est expérimentée ensemble. Toujours ensemble, ensemble. Il ne peut en être autrement.
J'ai tiré la leçon 31 qui exprime ceci. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et là, ça nous emmène sur la question de l'idée. L'idée aujourd'hui,
est l'introduction à ta déclaration de délivrance. Encore une fois, l'idée devrait être appliquée à la fois au monde que tu vois en dehors et au monde que tu vois en dedans. Alors, à cette idée-là, si je... En étant dans mes moments présents, j'observe ce qu'il peut y avoir autour de moi, enfin ce qui existe autour de moi, et à l'intérieur de moi aussi. Et il me vient alors l'idée l'idée c'est les mots, l'esprit, l'ego, le mental, l'unité. Et je m'attarde justement sur ces trois-là, l'esprit, l'ego, le mental. Il me vient l'idée, pourquoi ne pas essayer de comprendre les circuits électriques par rapport à l'énergie, pour que la lumière soit. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être cette idée que l'esprit, l'ego et le mental, ils sont reliés ensemble avec des fils? Mais je n'ai pas le mode d'emploi. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, en fait, entre est-ce l'esprit qui va explorer ou regarder à l'extérieur de qu'est-ce qui se passe? Et je me dis peut-être non, c'est dans mon ressenti, je me dis mais on dirait que c'est plutôt mon ego qui observe l'extérieur. Mon esprit, il est intérieur. Et lorsque mon esprit, lui, observe ce qui se passe intérieurement, à l'intérieur, je me sens en bonheur, je me sens en amour. Alors cet ego qui, lui, observe à l'extérieur, lui, l'information, c'est pas juste, c'est pas beau, c'est tout. Cet ego me renvoie, voilà, cette impression, enfin, me renvoie ces informations de l'extérieur où je ressens après intérieurement que l'unité, je ne la vois pas en fait à l'extérieur, je ne la ressens pas. Et le mental, lui, c'est peut-être l'échangeur des informations, enfin je ne sais pas, tout ça, comment ça fonctionne à ce moment-là. Si j'essaie d'observer par mon mental ou de comprendre les choses par le mental, si ce mental n'est pas connecté à mon esprit, comment veut-il, comment je ne sais pas, c'est des grands points d'interrogation. Mais si je m'écoute ou si je m'observe intérieurement, je constate que lui, mon esprit, qui, lorsqu'il envoie des informations à mon mental, tout est ok, tout est juste, tout est harmonieux. Cet esprit, il est ok, il est bien, je me sens bien dans cet esprit-là. La tête, si elle a des informations de l'ego, c'est conflictuel, ou alors c'est interrogatif, c'est tout plein, enfin, il cherche, il y a toujours des questionnements et ses réponses, l'ego ne peut pas les trouver tout seul. Le mental ne peut pas les expliquer seul si l'esprit n'est pas en lien avec ces deux aspects de mon être. Voilà pour l'idée, peut-être, mais après, la question ou l'idée de cette unité dans l'absolu, qu'est-ce que c'est? Doit-on... Dois-je poser la question à mon mental d'abord, écouter mon esprit, ou laisser mon ego me donner des perceptions extérieures pour donner ou trouver une signification à cette question ou à cette unité-là? Est-ce que l'unité se traduit par des explications du mental, des informations de l'ego, ou est-ce qu'il cette unité se vit en toute simplicité avec cette connexion de l'esprit, ou de laisser cet esprit-là de l'intérieur s'exprimer. En écoutant mon esprit, je ressens bien. Quand j'écoute mon esprit, quand je m'observe intérieurement, cette unité, elle est bien là, elle est belle. Je me sens... Et en toute humilité, je me sens véritablement connectée à la source, à cette source divine. Mon esprit, il est véritablement, je le sens. Quand je m'inspecte, mon esprit, je suis connectée à cette source divine, oui. Mais dans cette expérience, dans cette dimension, ou cette expérience de cette réalité-là, il est vrai que j'ai comme idée que mon ego et mon mental, il y a voilà, cette question de, ou cette perception réaliste dans cette matérialité, où il y a ces perceptions ou les mots qui me viennent comme ça. C'est unité ou individualité ou individualisme. Dans cette réalité-là, pour moi, pour que cette unité, tout au moins que cette énergie puisse véritablement se partager, pour que l'on soit véritablement tous en lien, que l'on forme tous un cercle où l'on puisse prendre chacun la main par la main, c'est unité ou individualisme. Voilà les questions là pour moi, les questions d'unité, d'individualisme, mais là c'est lié aussi donc aux perceptions de mon ego dans cette réalité là. L'esprit n'est pas individualiste, il est dans le, forcément, enfin, il est unité, l'esprit est unité. L'ego est égoïste, si on peut. L'ego, en fait, pour moi, il peut nous faire devenir ou être ce que l'on veut. L'ego, si on le laisse véritablement dans ce libre arbitre, l'ego, il peut aller véritablement dans toutes les directions et créer ou co-créer l'ego. Mais cet ego qui est co-créateur, s'il n'est pas en lien avec cet esprit-là, pour moi, c'est ce qui... C'est ce qui me fait sentir que, oui, je suis victime du monde que je vois. Pourtant, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Ce n'est pas mon bonheur que mes yeux observent, des choses pas belles, des choses désunies. Je ne pense pas que ce soit moi qui puisse attirer ces choses, ou d'accepter alors cette expérience, ou alors c'est lié à mon ego, l'ego qui fait l'expérience, et c'est l'ego qui est magnétique dans le sens où il m'attire à moi des expériences pour que je comprenne les choses et être en constante ascension, d'être dans l'ascension, dans cet absolu de transformer la matière en lumière et la lumière en matière. Mais là, pour moi, c'est de l'ordre du mental et de l'ego. Ça peut paraître, oh mon Dieu, tellement prétentieux que de se dire ascensionner. Si je prends l'idée j'ascensionne. Voilà, je travaille sur mon ascension, l'élévation, Alors, je me mets en tête l'idée. Donc, je la mets bien en tête et non dans l'esprit. Puisque là, je n'écoute pas l'esprit, c'est mon mental qui va m'offrir une idée. L'idée de transformer la matière en lumière et la lumière en matière. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Véritablement, ce sont des mots, des phrases clés. Ce sont des grands secrets révélés. Mais bon, je pourrais refaire le monde et converser ainsi pendant un long moment, mais je ne suis pas là pour donner des leçons ou essayer de. Donc, je reviens au centre, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et je retiens donc le mot délivrance. Voilà. Être victime sous-entend aussi le mot innocence qu'on a évoqué au début, l'innocence, être victime innocent. Se délivrer de quoi ? D'un monde de non-amour ? Me délivrer d'un monde de non-amour. Donc les idées, elles peuvent être véritablement multiples aussi. Et là, c'est l'ego qui est là, bien sûr, évidemment, c'est mon ego. Est-ce que voilà, l'ego, est-ce que c'est. Oui, l'ego, c'est une victime. Oui, l'ego. Pour moi, oui, l'ego est victime. En tout cas, moi, je me sens victime de ce que je vois, c'est vrai. Tout à l'heure, avant de venir, une petite. Je fais vraiment confiance à la vie, évidemment. Et j'ai rencontré une jeune fille, Céline, qui distribuait donc des tracts pour Force Ouvrière. Elle m'a proposé un tract et je l'ai accepté avec sourire. Et j'ai senti en moi une envie de rester un moment auprès de de Céline et de lui poser certaines questions. Parce que ma perception, donc dans ce monde extérieur, pour moi, cette Céline, pour moi, c'est une fille qui est sur le terrain. Dans la question d'unité, elle est véritablement sur le terrain, force ouvrière. Elle revendique. Elle fait passer l'info. Tout au moins, elle est là en trait d'union pour mettre en lien. Enfin, tout au moins donner l'information aux gens, au hasard, comme ça. Ce qui passe, on tend le bras où on ne veut pas. Donc, elle informe les gens sur ce mouvement. Enfin, bref. Mais le fait qu'elle soit sur le terrain, pour moi, c'est dans le sens où il y a cette question de ce qui est juste ou pas juste. C'est juste d'accepter la justice. Si on est dans un monde attractif, est-ce que moi je dois rester isolée dans ma petite personne de me dire, oh oui, je reste égoïste, c'est pas grave. Il y a des gens qui dorment par terre la nuit, ou la journée, ou il y a des gens qui dorment dehors par terre. Bon, c'est pas grave. Ça ne me concerne pas. Je ne vais pas non plus citer toutes les réalités que en moi je ressens comme pas juste de cette. de tous mes frères et sœurs, quoi, qui sont pas dans leur bonheur. En tout cas, je résume avec cette fille, Céline. On en a conclu toutes les deux que, parce que je me posais une question. Moi, je suis là dans ma sphère loi d'attraction et tout plein de choses parce que j'ai du temps qui me permet la possibilité, entre guillemets, je me donne les moyens financièrement parce que je me mets plus ou moins en sécurité, d'avoir ce temps superflu où je n'ai pas besoin d'être là tous les jours à me dire « Oh là là, mon Dieu, est-ce que je peux avoir un toit ?» Est-ce que... Enfin bref, tous ces premiers besoins nécessaires pour être en sécurité dans cette réalité-là, avoir un toit, avoir de quoi s'alimenter pour sa survie, etc. Donc, j'ai du temps que je m'octroie, du temps pour la superficialité, entre guillemets, mais cette superficialité-là, pour moi, elle n'est pas superficielle, pour moi, c'est un absolu. D'être là à rechercher, de trouver les réponses à mes questions. Le pourquoi, du comment, pourquoi je suis là, pourquoi on est là, enfin surtout c'est dans le nous que je ressens profondément les choses. C'est dans le nous, c'est pas dans le je veux ou je suis, c'est qu'est-ce que l'humanité dans cette réalité, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, enfin bon, toutes ces questions, je cherche. Mais tout dans tout ça, donc avec Céline, on en a résumé que oui, effectivement, je vais poser la question. Par rapport aux gens qui étaient en misère, qui n'avaient pas les premiers besoins les premiers besoins nécessaires à la survie, entre guillemets. Comme elle est proche de ces gens-là, mais elle me dit, parce qu'on s'est tutoyé après, elle me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tous les gens qui sont là, même dans leur misère, ils n'aspirent qu'à une chose, c'est d'être dans le bonheur, quoi. Ils veulent tous le bonheur. Celui qui dort dans la rue veut le bonheur. Celui qui, n'a plus de travail veut le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Voilà, tout le monde veut le bonheur, tout simplement. On veut tous être heureux.
Et voilà, merci Soraya, et on rit tous parce que, effectivement, merci pour cette question. Tout le monde se la pose, cette question. Et ce dont nous parlons ici, ce n'est pas une petite chose. Et ta leçon 31, je crois, ta leçon, je ne suis pas victime du monde que je vois, ce n'est pas un choix entre une réalité et une autre réalité. C'est pas est-ce que je veux être victime ou pas victime, ça veut dire est-ce que je suis victime et en fait la victime n'existe pas. Et donc quelqu'un qui apparemment n'a pas de travail et apparemment est clochard ou n'a pas les besoins essentiels pour sa vie, bien sûr ça nous touche le cœur, mais en fait qui il est a choisi son expérience. Et ça c'est le fondement de cette prise de conscience non duelle. C'est justement à cause de qui nous sommes, pourquoi on est là. Tu as posé cette question, tout le monde se pose, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que c'est que ce cirque avec ces injustices apparentes, ces trucs flagrants où il y a 1% et 99% de riches, enfin 1% de riches et puis 99% d'exploités, enfin bref, toutes ces choses qu'on entend et qu'on voit. Et là, c'est ça l'illusion. Et donc, c'est des questions qui viennent partout. Et le cours en miracle dit, c'est pas un cours en effet, c'est un cours en cause. Et en fait, on regarde la cause de tout ça. Et la cause, c'est pas ce qu'on croit. C'est justement pas d'aller faire plus de justice sociale. Ça vient en son temps. Et ça joue un rôle. Et ça fait partie, disons, des effets qui suivent la prise de conscience, qui suivent l'ouverture à l'amour. Mais chacun a choisi son expérience. Et ça, c'est ça fondamental. Nous sommes qui nous sommes déjà. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de victime. Donc, quand je dis je choisis de ne pas être victime du monde que je vois, je choisis la vision que je ne suis pas victime, mais que personne n'est victime. Et ton amie Céline, qui regarde le monde à sa façon, elle me lance un appel pour dire, mais Céline n'est pas victime, personne n'est victime. Elle a l'impression d'être victime, elle a l'impression que d'autres sont victimes, peut-être. Oui. Et l'impression est très forte. Et on a vraiment l'impression d'être victime, parce que c'est ça le principe de l'ego. Mais l'ego n'est pas réel. Ce n'est pas un choix entre deux réalités, entre une réalité d'ego et une réalité de non-ego ou de non-séparation. C'est un choix entre le vrai et le faux. Et ça, c'est ça le fondement non-duel. C'est ça le fondement de tout enseignement non-duel. C'est le fondement de la Torah, du Tao Te Ching, de la non-dualité, courant miracle ou tout ce qu'on veut. C'est qu'est-ce qui est réel ? Mais ce n'est pas évident. Voilà, Jésus, il y a 2000 ans, qui est arrivé avec cet enseignement très clair, très simple. Il travaillait sur lui-même. Il avait beaucoup d'humour. Il avait des moments difficiles, comme tout le monde. Il vivait pleinement son corps physique, ses relations amoureuses, etc., toutes les relations. Et son enseignement était simple, mais n'a pas été compris, parce que l'illusion ici est très très forte. Et il a fallu 2000 ans, et encore même des millénaires avant, et pour arriver à cette période-là maintenant, 2000, 2010, 2012, 2015, où on se réveille vraiment. On se réveille à quoi ? Au fait que c'est une illusion, et qu'effectivement, personne n'est victime du monde que je vois. Mais ce n'est pas évident à voir au début, et ça prend du temps. Ça semble prendre du temps dans un temps illusoire. Et on est tous là-dessus. On est tous dans un processus de réveil à la réalité. C'est pour ça que même le cours en miracle nous dit, c'est ça la valeur du déni, c'est le déni de l'illusion. Je nie l'illusion. L'illusion, c'est une illusion, c'est tout. Ce n'est pas une réalité de pécheur, une réalité de manque, et puis je choisis entre une réalité de manque et une réalité d'abondance. Non, non. Je choisis la réalité qu'il n'y a pas de manque, que c'est imaginé. Donc il n'y a qu'abondance. C'est ça la non-dualité. Et qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, c'est la réalité de qui nous sommes. Que la réalité de qui est Céline, par exemple, dans ton exemple. C'est, parce que c'est là que ça se passe. C'est vraiment, on est 7 milliards ici, avec des apparences de personnages, et qui en est n'a rien à voir avec le personnage. Moi qui parle, par exemple, comme tout le monde, j'ai aussi mes visions, mes illusions, mes ressentis de manque, d'insuffisance, de rater les choses, etc. C'est tout faux. Du début à la fin, c'est zéro. Ce n'est pas réel. Et donc, nous travaillons sur nous-mêmes en demandant à l'esprit, montre-moi ta vision, donne-moi ta vision, je veux voir différemment. Je veux voir la réalité, parce qu'il n'y a que cette réalité qui me donne ce bonheur auquel toi, Soraya, Céline et tout le monde, comme tu dis, tout le monde aspire, bien sûr. Tout le monde aspire au bonheur. Simplement, on a une vision fausse, on a l'impression que le bonheur va nous venir parce que on va avoir plus d'argent, on va avoir un peu plus que le SMIC et autres. Ça va se faire, c'est sûr, ça fait partie du plan divin. C'est évident qu'on va avoir une planète qui va être très harmonieuse, chacun va vivre, va avoir de quoi vivre, et on va progressivement être débarrassé de tous ces soucis de survie. C'est juste, ça va se faire. Mais ça va se faire comme une conséquence d'un éveil de conscience et d'un éveil à l'amour. Et donc, c'est ça qui semble difficile, parce que si je veux me battre pour une justice sociale, je crée le désordre social. Parce que je crois au désordre social. Mais je suis créateur, que je le veuille ou pas. On est tous créateurs, on est tous divins. Donc, c'est ça qui est très important. C'est pour ça que ce dont nous parlons ici, ça devient fondamental. Parce que sinon, comme dit le cours en miracle, il nous dit très clairement, vous ne cessez pour faire le ciel, pour faire le bonheur auquel vous aspirez tous, vous ne cessez d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Pourquoi est-ce qu'on utilise des moyens qui font l'enfer et comment on utilise ces moyens ? Eh bien, en se battant pour améliorer le social en croyant au manque. Alors, c'est ça qui est difficile à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas effectivement être appelé les uns les autres à faire des choses. Par exemple, même aller en force ouvrière, pourquoi pas, même dans la police, n'importe où. Mais on y va avec amour. On y va avec amour, on y va en disant, j'y vais justement avec une intention différente. Au lieu de me battre contre un système, ou d'essayer d'améliorer des choses qui viennent du consensus général des croyances de mes frères et sœurs, je change ma vision intérieure. Donc, je ne suis pas victime du monde que je vois, et mes 7 milliards de frères et sœurs ne sont pas victimes du monde qu'ils voient. Alors, ce n'est pas une petite question, ça c'est sûr. Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opposition. Et tout à l'heure, en riant, Estelle nous disait, ben moi je prends le micro pour parler parce que quelque part ça me fait peur et j'ai envie de foutre le camp de la pièce. Et on a tous ri. Mais c'est vrai, donc il y a une part en nous qui n'a pas envie d'entendre ça. Pourquoi elle n'a pas envie, encore une fois? Parce qu'elle croit à la séparation. Elle croit qu'elle va pouvoir se sécuriser enfin un peu par une amélioration sociale, une amélioration de relations, etc. C'est pas là que ça se place. C'est dans la vision intérieure. C'est vraiment parce que je suis créateur. Donc, si je dis les gens sont victimes, je crée les victimes parce que je crée la victime. Je suis le divin qui... et le divin honore c'est ce jeu de séparation, avec des manques, avec des injustices, avec des meurtres, avec tout ça, et avec la mort. Et donc, tout ça, j'imagine que c'est réel. Et donc, quand j'imagine que c'est réel, j'envie les réalités. Et c'est ça le virage à 180 degrés complètement à l'envers, complètement à reculons, on peut dire, où je choisis la vérité et je dis non à l'illusion. On fait complètement un chemin inverse, et comme dit Yeshua, on semble reculer, mais en fait on avance. On recule vers la source, vers ce qui est réel, et on arrête d'avancer de plus en plus dans davantage d'illusions, parce que nous sommes créateurs. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes qui nous sommes. Nous sommes la vie qui s'exprime et nous sommes esprit. Et c'est en esprit que ça se passe. Et c'est l'esprit qui crée toute la matière. C'est l'esprit qui crée les systèmes sociaux. C'est l'esprit qui crée les banques, qui crée Monsanto, qui crée tout ça. C'est le consensus général. C'est ce jeu que nous jouons ensemble sur cette planète et dans l'univers. C'est pour ça que l'univers est passionné par la planète Terre et ce qui se passe. Parce qu'on est en train de se réveiller ici au milieu de ce chaos, effectivement, de cette apparence d'illusion, de manque, d'injustice sociale flagrante, qui nous déchire le cœur, c'est juste, oui, c'est vrai. C'est pas nier, ça, bien sûr. Mais on va à la source. On arrête d'utiliser des moyens qui font l'enfer, en croyant faire le ciel. Et c'est ça la grande découverte, le grand réveil. Alors ça demande effectivement une constance, une pratique de tous les jours, mais c'est une pratique d'amour, c'est une pratique amoureuse et rien d'autre. Ce n'est que de l'amour du début à la fin. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est accueillir. Donc j'accueille Céline, j'accueille Soria, j'accueille tous les clochards, j'accueille qui on veut, y compris Bush, y compris peut-être le nouveau président des États-Unis, quel qu'il soit. Je l'accueille dans l'amour. Et c'est ça qui transcende tout et c'est ça qui permet le miracle. Et qui accélère le réveil général. C'est ça dont nous parlons. C'est ça que nous partageons les uns les autres de plus en plus. Et quand on nous dit, quand Jésus nous disait, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous êtes le sel de la terre, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc levez-vous et exprimez votre vérité, c'est vraiment vrai. Et même si on est 1,5%, c'est déjà 35 millions sur 7 milliards. 1%, c'est 70 millions déjà. 1%. Et c'est ce levain dans la pâte, c'est ça notre rôle. Mais ce n'est pas évident, parce que ça nous demande aussi beaucoup, beaucoup de travail sur nous-mêmes, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de... Oui, de lâcher, de confiance, d'oser avoir confiance. D'oser être là dans l'instant présent, d'oser accueillir nos frères et sœurs, d'oser l'accueillir dans qui ils sont, dans qui ils sont. Et c'est pour ça que le courant miracle nous dit, ce que vous donnez vraiment, c'est vous redonner à vos frères et sœurs qui ils sont. Et c'est ça que vous pouvez donner, si vous leur donnez leur réalité divine, leur état de créateur. Vous leur donnez, alors il appelle ça le Christ, hein, on appelle ça le Christ, mais c'est un mot. Hein, ça veut dire le créateur que nous sommes tous. Et c'est ça que je choisis. Donc je dis non à l'illusion, non au manque, non à la séparation, et je dis oui à la réalité, qui est le bien sans opposé, qui est l'absolu que nous sommes, l'amour que nous sommes.
Alors, ce qui me vient, c'est il n'y a que l'amour. Et pourtant, quand je regarde ce monde, il semble que ce ne soit pas gagné. Mais si je l'aborde avec la non-dualité, alors je peux... peut-être changer un peu de vision. Parce que lorsque quelqu'un vient avec plein d'amour, vient me voir, me dit « Oh, vie, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, viens dans mes bras », et on se fait un hug, alors bien sûr que moi je réponds avec l'amour aussi, puisque l'amour appelle l'amour. Mais dans ce monde, quand quelqu'un vient avec des paroles de jugement, de condamnation, me dire des choses qui sont pour mon ego difficiles à entendre, alors le changement de vision, c'est de voir que, en fait, ce que cette personne me lance, c'est un appel à l'amour. C'est parce que son esprit est divisé et qu'il veut retrouver l'unité d'esprit qu'il me dit ces choses. En vérité, comme lui aussi veut être heureux, la manière qu'il a de réclamer le bonheur ou l'amour est maladroite, parce que l'esprit est divisé. Et en dessous de la critique, le jugement et la condamnation, il y a « je veux être aimé ». C'est pour ça que je te dis des choses aussi difficiles. C'est parce que je suis à ce point séparé de l'amour et à ce point, j'ai envie d'y revenir. Et donc, c'est pour ça que, malgré les apparences, il n'y a que l'amour dans ce monde. Parce qu'il y a des manifestations d'amour et des manifestations qui sont des appels à l'amour. Donc, là où j'ai un rôle à jouer, c'est est-ce que j'entends les appels à l'amour de ceux qui critiquent, condamnent et jugent ? Ou est-ce que moi aussi, je me sers d'eux comme un miroir pour critiquer, condamner et juger. Donc quand je fais ça, je suis encore dans mon esprit divisé qui pense qu'autre chose que l'amour existe. Mais quand je peux agir avec la compassion, c'est-à-dire voir d'où vient la souffrance qui fait que cette personne a besoin de condamner, de juger ou d'exclure, alors je transforme l'ennemi en frère, comme disait tout à l'heure Jésus. Et puis, j'ai trouvé aussi un bon passage, un beau passage, et on terminera avec ça, de l'Évangile selon Jésus, à nouveau, page 117, dans le chapitre qui s'appelle « La bonne conscience religieuse ». Il dit « Votre tâche n'est pas de condamner, mais de comprendre et de bénir. Votre tâche est de voir la peur dans les yeux des gens et leur rappeler qu'ils sont aimés. Pourquoi voulez-vous frapper, brûler ou excommunier ceux qui ont le plus besoin de votre amour ?» Je vous en prie, ne tentez pas de me mettre à votre niveau de peur. Ne m'attribuez pas vos malencontreuses paroles pétries de peur. Cessez votre folie. Vous avez mal compris. Vous êtes dans l'erreur. La matière de mon enseignement est l'amour, pas le jugement, la condamnation ou le châtiment. Je ne vous ai donné que deux règles. Aimez Dieu et vous aimez les uns les autres. Ce sont les seules règles dont vous ayez besoin. Ne m'en demandez pas d'autres. Ne me demandez pas de prendre parti dans vos querelles ou vos feuilletons à l'eau de rose. Suis-je pour ou contre l'avortement? Comment pourrais-je être en faveur de l'un sans être en faveur de l'autre? Ce n'est pas possible. Lorsque la vérité vous apparaîtra, vous n'aurez plus besoin d'attaquer votre frère. Même si vous pensez que vous avez raison et qu'il a tort, vous ne l'attaquerez pas avec la soi-disante vérité, mais lui offrirez votre compréhension et votre soutien. Et c'est ensemble que vous vous rapprocherez de la vérité grâce à l'amour et à la douceur que vous partagerez. Voilà, sur ces paroles d'amour, qui nous enseigne comment aimer lorsque l'ego voudrait attaquer et se défendre et s'ériger en victime, en se rappelant notre essence et en se rappelant que le frère qui est en face de moi, celui qui m'attaque, c'est celui qui a le plus besoin d'être aimé. Et comment je réponds à cet appel? Alors bien sûr, il faut avoir le cœur un petit peu en paix pour ne pas réagir au quart de tour, à l'attaque ou au jugement. Et ça nécessite d'abord de se donner de l'amour à soi-même, d'arrêter de se juger soi-même, parce que tant que je me juge, j'aurai tendance à projeter ce jugement pour m'en débarrasser illusoirement sur l'autre. Et donc le jugement appelle le jugement. L'auto-jugement appelle le jugement extérieur également. Donc je me pardonne d'avoir cru des tas de choses complètement erronées. Et je me rappelle que la seule loi est une loi d'amour pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Voilà, je me réjouis d'avoir partagé ce temps avec vous. Nous allons clore l'enregistrement audio et nous pourrons, de manière plus informelle, continuer à échanger entre nous autant que nous le souhaiterons. Dans la joie d'une prochaine rencontre, je vous dis à très bientôt.